Nous allons maintenant écouter de très larges extraits du débat « État des lieux des poursuites pénales des mineurs isolés » enregistré à l'occasion de la rencontre nationale du collectif Jugi, Jugi pour justice pour les jeunes isolés étrangers, et qui s'est tenu le 23 mars dernier à Paris. Nous allons donc écouter Sonia Olivier, qui est du SNPES-PJJ-FSU, autrement dit le Syndicat national du personnel de l'éducation et du social de la protection judiciaire de la jeunesse, qui parlera des poursuites pénales pour faux et usage de faux et pour escroquerie à l'aide sociale. Puis on fera un point sur les poursuites à Montpellier avec Thierry Lerch, puis un tour de table sur les pratiques dans les différents départements. Et après ça, on écoutera Claire Kugamoska, avocate, et qui parlera de la note de la police aux frontières sur la supposée fraude généralisée en Guinée et le recours déposé par le Gisti.
Sonia Olivier, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse et je fais partie du SNPES-PJJ-FSU. Donc c'est à ce titre que je vais introduire le sujet sur l'état des lieux de la prise en charge des mineurs isolés au pénal. Je vais faire malheureusement une intervention qui est très proche de celle que j'ai déjà fait l'année dernière parce que peu de choses bougent. C'est-à-dire que les mineurs isolés. Alors actuellement en France, on n'a jamais eu autant d'enfants enfermés, hein, que ce soit des mineurs isolés ou des mineurs tout court. Mais parmi l'ensemble des mineurs enfermés, il y a un grand pourcentage de mineurs isolés qui sont le produit d'une politique pénale discriminatoire. Il y a un certain nombre de parquets qui utilisent des procédures rapides, systématiques pour des mineurs isolés, sous prétexte de vouloir on veut les garder sous la main de justice, on veut être sûr qu'ils puissent être jugés. On veut aussi, soi-disant, les protéger de la rue. La prison, c'est sûr, ça protège de la rue. Donc, par exemple, à Fleury-Mérogis, depuis 2 ans déjà, il y a à peu près 30 à 40% de mineurs enfermés qui sont des mineurs isolés. Alors pourquoi ? Pour des délits de subsistance, des délits liés au trafic de stupéfiants, parce que beaucoup de jeunes dans la rue sont amenés à se droguer ou à boire et à entrer dans des histoires de trafic, de traite et puis de la traite des histoires de réseau aussi, de traite d'êtres humains. Et puis il y a aussi les jeunes qui sont évalués majeurs pour lesquels dans certains départements l'aide sociale à l'enfance porte plainte pour escroquerie des jeunes se retrouvent en prison pour ce motif. Donc du coup je te laisse la parole.
Thierry, donc de RESF et CIMA de Montpellier. Donc sur Montpellier, effectivement, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a déjà un très grand nombre de jeunes qui attendent des mois dans des hôtels à rien faire. Actuellement, ils sont à peu près 300 qui sont répartis dans différents hôtels de Montpellier ou de la région. Quelquefois, même, ils sont deux dans le même lit, alors que c'est totalement illégal. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y en ait aussi peu, déjà, de ces jeunes qui tombent justement dans... alors qu'ils font, ils n'ont rien à faire toute la journée, qui se mettent à faire des conneries. C'est très, très faible. Il n'y a vraiment presque aucun. C'est pas eux qui font ça. Quelquefois, c'est des jeunes marocains qui sont déjà décrocheurs dans leur pays au Maroc, qui viennent ici. Bon, c'est... sur cette population, on n'en a presque pas. Mais ce n'est pas de cette délinquance-là que je vais parler sur Montpellier. Sur Montpellier, c'est le fait qu'il y a une enquête. Le département remet les papiers systématiquement au procureur qui fait un recours à la PAF pour faire l'évaluation de ces papiers. Et c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est ça qui prend 9, 10, 11 mois ou 14 mois et qui fait que D'abord, on va faire pratiquement systématiquement passer des tests osseux à tous ceux dont il y a le moindre doute sur la minorité. Donc ça, c'est presque la moitié des jeunes qui vont passer des tests osseux. Hein. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à 6h du matin, tout d'un coup, la police va débarquer soit à l'hôtel, soit au foyer, va prendre le jeune, va le mettre en garde à vue et le lendemain, le faire comparaître en comparution immédiate au tribunal pénal. Et il va être, il y aura un avocat commis d'office pour le défendre qui connaît la plupart du temps rien à la situation de ces mineurs. Et la plupart vont se retrouver condamnés à 3 à 12 mois de prison ferme, hein, c'est pas de la sursis. Hein. Et s'ils demandent un report de leur jugement, ils ne veulent pas passer en comparution immédiate, ils demandent un report pour avoir le temps de se défendre, ils vont quand même être mis dans la partie majeure de la prison de Villeneuve-les-Maguelones, qui est une prison déjà occupée à 150%, suroccupée à 150% par des majeurs. Hein. Et donc ces jeunes vont se retrouver du jour au lendemain avec 3 à 12 mois de prison ferme, avec des interdictions du territoire français de 3 à 5 ans. Hein. Et donc avec presque aucun moyen pour se défendre. Et même quand parfois on fait venir, ils ont quand même des papiers qui sont contestés, mais on a le temps hein, de faire revenir d'autres papiers. Même ça, c'est pas retenu par cette justice. Hein. Donc la grande responsabilité quand même là-dedans, c'est quand même le procureur. Hein. On a un procureur qui est vraiment spécifique sur Montpellier. Hein. Juste une petite anecdote quand même, il y avait la Ligue du Midi, hein, qui est une organisation d'extrême droite à Montpellier, qui était venue dans un lieu d'accueil des migrants, des mineurs justement, foutre le bazar, foutre en l'air tous les documents, en se faisant filmer, en disant « le département verse de l'argent pour l'accueil des mineurs, c'est scandaleux ». Donc il y avait une porte, on avait porté plainte, hein, et le jour du procès, il y avait une manifestation de soutien à l'association qui accueillait les migrants. On était bloqués dehors. Les seuls qui ont pu rentrer dans le tribunal, c'est la Ligue du Midi, avec tout leur soutien. Ils sont rentrés en nous faisant des droits d'honneur. Et eux ont pu assister au procès, et pas nous. Hein. C'est pour dire que voilà, la nature du procureur sur Montpellier. Hein. Voilà. Carrément, c'est une discrimination, une justice complètement discriminatoire, d'abord, parce que ces jeunes n'ont aucun antécédent. Hein. Alors quand on assiste à des procès, parce qu'en même temps, nous on assiste à des procès de jeunes délinquants, hein, notamment un qui avait fait des braquages dans un truc, ils avaient occupé, bon tant mieux, hein, de 2 mois avec, enfin ils n'étaient pas obligés de les faire. Non, mais c'est pour dire qu'il y a une discrimination très claire, hein, de la justice, d'abord, parce que sans aucun antécédent, c'est inadmissible qu'on mette des jeunes en prison. Deuxièmement, il y en a qui sont réellement mineurs. La grande partie sont réellement mineurs parce qu'on a pu faire revenir des papiers ensuite, prouver qu'ils étaient bien mineurs. Mais le problème, c'est qu'il y a cette fameuse interdiction du territoire français. Ce qui fait que sans lever cette interdiction, il n'y a pas moyen de régulariser leur situation. On arrive à tous les scolariser, hein, tous. Quand ils ressortent de prison, presque aucun sont expédiés finalement. Donc on les scolarise, bon, il y a le problème de l'hébergement, bon, mais ça c'est un autre problème. On les scolarise sans problème, ils sont tous les profs, enfin c'est bien connu, hein, tous les profs sont hyper contents de ces élèves-là, parce que c'est des élèves qu'en veulent, hein, qui sont, même s'ils ne sont pas les premiers de la classe, mais ils sont déterminés à réussir. Hein. Donc les profs, ils nous disent, ah ben des élèves comme ça, j'en reprends, autant que vous voulez. Hein. On n'a pas de problème pour les scolariser, c'est plus facile de scolariser eux que ceux qui sont à l'hôtel, hébergés par l'ASE, parce qu'eux, on ne peut pas les scolariser, parce qu'il n'y a pas d'EPP. Hein. Mais voilà, donc cette situation qui est absolument dingue. Et bon, on a fait quand même tout un travail de médiatisation, on a dénoncé ça plusieurs fois. On a fait un courrier à Belloubet, hein, pour dénoncer ce phénomène. On rencontre en ce moment tous les députés de la région avec un dossier complet sur cette justice complètement discriminatoire, hein, c'est digne, on peut dire, c'est digne d'une justice coloniale, hein, carrément, hein, ce genre de phénomène. Alors, à notre enquête, c'est quand même, il y en a eu, hein, des procès comme ça à Lyon, hein, mais Lyon, il gagnait systématiquement en appel, alors que c'était pas le cas à Montpellier, parce que même la cour d'appel a bien souvent suivi, hein, et le tribunal. Et à Lyon, donc, ils ont arrêté. Hein. Et il y a encore quelques cas en France. J'ai entendu parler qu'il y a eu dans le Nord aussi quelques cas de mineurs qui ont été condamnés à des peines de quelques mois de prison. Mais c'est l'endroit à Montpellier où il y en a, c'est de manière, disons, on en a au minimum 40. Hein. J'ai le rapport là de la visiteuse de prison de la CIMADE, hein, qui les rencontre donc systématiquement. Donc en deux ans, on a rencontré 40 et on pense qu'il y en a probablement au moins une cinquantaine hein, qui ont été condamnés à des peines aussi violentes. Et je vous raconte pas, mais que ces jeunes, quand ils arrivent, hein, qui sont mis en prison, hein, dans les cellules avec des gens qui sont ultra violents, hein, c'est un traumatisme pour eux. Alors là, c'est vraiment c'est incroyable, quoi. Il y en a, ils se mettent à pleurer, ils savent plus quoi faire. Enfin, ils se rendent pas compte qu'ils ont rien fait, quoi. Ils sont complètement innocents et on les met dans un truc. Où ils retrouvent un milieu complètement violent, dans lequel ils sont complètement étrangers. Alors voilà, donc c'est une bataille qu'on mène, qu'on n'arrive pas encore à... qui nous prend la tête parce qu'on n'en voit pas encore la solution. Ah oui, dernière anecdote, un des jeunes, donc, on va faire un recours en levée, en révision du procès pour son interdiction du territoire français. Donc on a fait revenir des papiers. Hein. En plus, ce jeune-là, il avait été libéré parce qu'en prison, il avait voulu faire appel et ça avait bugué, l'appel n'avait pas suivi. Donc, quand il avait été envoyé au centre de rétention à la sortie de prison, il est passé en justice et ils ont reconnu qu'il n'avait pas pu faire appel. Donc, du coup, il a été libéré parce que son appel n'avait pas été suivi en prison. Il a été libéré pour cette raison-là. Donc, ça n'a pas levé sa pénalité, hein, ça n'a pas levé ni son ITF ni sa condamnation, mais il a été libéré pour cette raison. Donc, on va pour faire un procès en révision de son interdiction du territoire français pour pouvoir le régulariser. Parce qu'on avait avant fait une demande de régularisation à la PREF, et la PREF n'avait pas donné de QTF, avait dit « faites lever l'ITF hein, » et à ce moment-là, on verra pour régulariser cette situation. Donc on arrive au tribunal, donc il est reçu, et la juge, tout simplement, a considéré cette demande irrecevable, parce que comme il avait une ITF, il aurait dû être dans son pays d'origine et pas en France. Voilà. Donc voilà, on a une justice à Montpellier qui est absolument, dont on n'arrive pas à s'en sortir. Hein. C'est vrai que ça nous prend la tête. On fait des démarches, tout ce qu'on peut, comme pour médiatiser et vis-à-vis du gouvernement, parce que c'est quand même au nom de la République hein, qu'on envoie ces jeunes en prison. Le procureur, hein, c'est au nom de la République qui réclame ces peines de prison et d'interdiction du territoire français. Et voilà, donc c'est une bataille qu'on mène. Et voilà, on a vraiment un peu de mal à s'en sortir. Quoi.
Nous, dans la Drôme, on a encore des poursuites sur des mineurs accusés d'avoir des faux documents, mais ils sont jugés par les juges des enfants. Donc on obtient beaucoup de relax pour déterminer la culpabilité d'un mineur qui aurait fraudé sur des documents dont il n'a pas la maîtrise, c'est quand même compliqué. Donc en général, on obtient des relax sur les poursuites qui sont faites. Par contre, là où je suis beaucoup plus inquiète, ce qui est arrivé à un jeune pour qui il y avait eu un test osseux qui avait déclaré qu'il avait plus de 25 ans, alors que ses papiers indiquer qu'il était mineur et que ses papiers, finalement, on a indiqué qu'ils étaient bons. Donc, il n'aurait pas dû avoir de test osseux. J'ai fait un recours à la cour d'appel de Grenoble contre la décision du juge des enfants qui avait levé l'assistance éducative. Et arrivé en appel, le problème, c'est que ce jeune, il avait commis une infraction entre deux. Et il a été jugé à ce moment-là, quand il a commis son infraction majeure, à cause du test osseux que le tribunal avait sous le coude à ce moment-là et qui disait qu'il était majeur. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont condamnés par un tribunal de majeur, le pénal tient le civil en l'état. Ça veut dire qu'aucun juge ne peut revenir sur une décision pénale qui dit qu'un individu est majeur. Donc la chambre des mineurs à Grenoble ne peut plus rien faire. Et lié par la décision pénale définitive qui dit que le jeune est majeur. Et là, on peut toujours invoquer des cartes consulaires, des passeports bons, etc. Il n'y a plus rien à faire. Donc vraiment, c'est important de se battre pour éviter qu'il soit condamné au pénal et déclaré comme majeur. Parce qu'après, c'est mort pour eux. C'est foutu.
J'ai oublié encore de dire une chose, c'est que quand ils sortent de prison, ces jeunes, ils sont condamnés comme étant majeurs. Mais le seul acte qu'ils ont, c'est qu'ils sont mineurs. Donc ils sont ni majeurs ni mineurs, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans aucune case. Hein. Il y a plein d'associations qui ne peuvent pas les héberger parce qu'ils arrivent avec papier mineur. Ah non, vous, on ne prend pas, nous on ne prend pas les mineurs. Hein. Donc ils sont non seulement ni mineurs ni majeurs, mais ils ont perdu y compris leur identité. Parce que c'est marqué toujours dans les actes de tribunaux, c'est X se disant hein, tel nom. C'est parce qu'en en fait, on remet en cause même leur propre identité. Hein. Donc voilà, c'est une situation qui est traumatique. Enfin, je ne vous dis pas la manière dont ils subissent ça, mais ceux qui savent qu'ils risquent de subir ça, c'est-à-dire ceux qui sont en attente, sachant qu'on leur a fait passer déjà un test osseux et qu'ils sont en train d'étudier leurs papiers, et savoir, ce qu'on subit les autres, je ne vous dis pas, à l'accueil de RESF le mercredi après-midi, ce qu'on reçoit, dans quel état ils sont, hein, d'angoisse, hein, d'angoisse permanente.
Juste, il y a eu une décision, je n'ai pas la date en tête, mais la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France quand même pour un jeune qui avait été déclaré majeur, jugé par une juridiction pour majeur, incarcéré avec des majeurs dont on a découvert par la suite qu'il était mineur. Oups. Et donc du coup, quand on dit qu'il n'y a plus rien à faire, le risque, c'est que s'il est condamné pénalement et qu'il est incarcéré avec des majeurs et qu'on arrive à apporter la preuve in fine qu'il était mineur, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la violation de textes internationaux. On ne peut pas incarcérer un mineur avec des majeurs. Donc, il y a eu, c'est un jeune roumain de mémoire qui s'est retrouvé comme ça incarcéré avec des majeurs et a été établi par la suite. Par la suite qu'il y avait une erreur sur son âge. Donc, vous voyez les conséquences. Deuxième remarque, moi, mon inquiétude, ça va être en lien avec ce qui va être évoqué par Jean-François cet après-midi. Jusqu'alors, les poursuites pénales, il y avait des départements qui le faisaient, d'autres qui ne le faisaient pas. C'était assez aléatoire. Mais là, le fait que maintenant, les gamins vont passer par la préfecture, à mon avis, les préfets, article 40 et autres, ça va être les préfets qui vont saisir les parquets. Quasi systématiquement, là on sera même plus sur des politiques départementales, ça va être c'est l'un des enjeux et un des risques à mon avis du fichier.
Alors on a des recours en cassation bien sûr, mais bon c'est long hein.
Dans le Var on en est à ils sont tous à 18 ans et un ou deux mois, monsieur X, mais tous, c'est-à-dire que quelques papiers d'identité qu'ils apportent donc à la préfecture, d'ailleurs maintenant la préfecture leur dit allez les apporter d'abord à la PAF. Et la PAF les déclare, tous les documents d'identité sont non authentiques. Donc, il y a, alors, ils n'ont pas toujours le rapport de la PAF, il y a l'OQTF qui arrive derrière. Quand on fait le recours sur l'OQTF, on a un papier de la PAF, le tampon n'est pas bon, le fond n'est pas bon, les fautes d'orthographe, enfin, il y a une liste, tout est coché ou presque tout. Et par rapport à ça, on n'arrive pas. Alors, là, quelquefois, ils vont vite. Maintenant, ils sont un petit peu... Bon, ils vont pas en prison, mais ils ont très peur de ça, parce que l'OQTF, il y en a qui sont arrêtés et renvoyés, en CRA, puis renvoyés. Donc, effectivement, c'est non authentique. Et s'ils en rapportent un autre, on leur dit, bon, celui-là, il n'est pas bon, fais-toi venir un autre, etc. Alors, le deuxième, d'accord, le jugement supplétif, il n'est peut-être pas mauvais, mais comparé au premier, etc. Puis, la date entre les deux ne convient pas. Puis, là, c'est manifestement quelque chose. Bon, tous sont des faux. Donc, effectivement, puisqu'ils sont Monsieur X, se disant, et on n'arrive pas à contester... À voir comment parce qu'on n'a pas, nous, de documents d'état civil authentiques où on pourrait dire, ben voilà. Donc la PAF a tout pouvoir et à mon avis, il n'y a pas simplement pour la Guinée. Je crois qu'il y a eu des ordres oraux, peut-être, disant, voilà, vous les déclarez tous faux. Parce qu'il y en a qui vont à Paris, dans leur ambassade, il y en a, ils ont plus de tampons sur leur document d'identité que du document lui-même. Il y a le tampon du ministre de l'Intérieur, il y a le tampon du consulat, il y a le tampon du super consulat, il y a le tampon... Bon, et ils arrivent à la PAF, c'est pas bon. Hein. Et par rapport au fait que la PAF dit le document n'est pas authentique, on n'a pas les arguments juridique pour dire le document est authentique. On n'arrive pas à trouver le moyen de se battre contre ça. Il y en a deux, un qui a été effectivement emmené devant le procureur, mais ça n'a, il n'a pas donné suite à la condamnation. Donc on n'en est pas au niveau de Montpellier, mais on en est, il n'y a pas d'IRTF, mais c'est des OQTF. Et les OQTF sont systématiques à 18 ans et 2 mois. Et on a été rencontrer l'ASE, et l'ASE nous a dit, en gros, ils nous ont dit, on a fait ce qu'on a pu, ils devraient avoir maintenant tous un diplôme, puisqu'ils sont souvent effectivement en apprentissage, etc., et bien qu'ils retournent dans leur pays exercer leur diplôme.
Pour compléter, j'ai vécu un cas tout à fait exceptionnel. Je suis des Yvelines, hein, mais nous avions un jeune de Côte d'Ivoire qui avait été jugé majeur. Je l'ai vu plusieurs fois avec des papiers qui étaient manifestement totalement vrais, puisque j'ai quand même une certaine expérience, malheureusement, avec la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait un recours devant le juge des enfants, et très rapidement, parce que, bon, quand nous avons su que ça allait être rapide, je suis allé directement à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, et en montant, comme toujours, j'ai réussi à convaincre le responsable du département de l'émission des cartes consulaires qu'il y avait urgence, parce qu'on devait la produire pour le jugement. Celui-ci m'a fait avoir une carte consulaire dans les 3 jours, ce qui est quand même relativement peu habituel. J'ai fourni cette carte consulaire avec une attestation provenant de ma part, indiquant les conditions dans lesquelles nous avions eu cette carte consulaire, et une attestation signée avec la photocopie de ma carte d'identité. Bref, le jugement est tombé 15 jours ou 3 semaines après. Bon, il était absolument innommable, mais surtout, la juge en question précisait que la carte consulaire était fausse. Fausse. Ah oui, non, mais non, la carte consulaire, elle avait été faite par... Bon, enfin bref. Et elle précisait que, bon, elle était fausse. Je me suis renseigné auprès de du consulat en question, qui m'a assuré qu'il n'y avait pas eu la moindre recherche ni le moindre coup de téléphone pour vérifier si cette carte était vraie ou juste, s'il y avait un dossier, le numéro, etc. De ce fait, comme j'estime que là, on se moquait quand même un peu du monde, et sans la référence, bien entendu, à l'association pour laquelle j'ai travaillé, j'ai écrit directement au supérieur de la juge en question, qui, comme chacun sait, est le président du TGI de Versailles. Enfin, c'est le supérieur hiérarchique, en lui faisant connaître que c'était une procédure totalement inadmissible et même une faute professionnelle, puisque, par hypothèse, on juge une carte fausse sans même faire la moindre recherche. Et que j'allais, bien évidemment, faire une longue lettre aussi à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, etc. Ce, bien entendu, j'ai attendu une dizaine de 15 jours. J'ai reçu 2 lettres du président de du TGI, qui était complètement hors sujet. Et j'ai donc envoyé une lettre relativement forte et circonstanciée à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, expliquant qu'il n'y avait plus de nécessité qu'on se présente à son ambassade, puisque par hypothèse, les cartes consulaires étaient fausses, mais que par contre, je n'avais pas du tout apprécié que je puisse être jugé faisant partie d'un gang d'émission de faux documents. J'ai pas eu de réponse pendant 2 mois et demi. Et puis tout d'un coup, alors que j'étais assez loin de France, j'ai eu un coup de téléphone du secrétaire général de l'ambassade, lui-même, ce qui est quand même un peu étonnant, et me précisant que malheureusement, à la suite donc de ma remarque, ils avaient fait, entre guillemets, des recherches auprès du pays, et que les documents qu'ils avaient donc jugé juste, sans aucun conteste, maintenant était devenu faux. Bien, ça voulait tout simplement dire, très clairement, que puisque j'avais un peu foutu, je dirais, le bazar entre la justice de Versailles et l'ambassade, que ben, je ne pouvais plus continuer à faire savoir qu'on allait faire quelque chose. Car d'ailleurs, j'avais écrit au président du TGI que comme, bien évidemment, ce jugement, en dehors d'une faute professionnelle, ferait ressortir la minorité du jeune, il faudrait ensuite savoir si la charge hôtelière des 2 ou 3 mois de subi entre le premier jugement et le deuxième jugement serait à la charge du TGI ou partagée avec l'ambassade, puisque manifestement, elle faisait des faux documents. Bon, je crois qu'ils ont dû un peu prendre... ils ont dû, à mon sens, se téléphoner les uns les autres. Et là, effectivement, j'ai plus rien à faire.
Vous avez fait appel, quand même, de la décision du juge des enfants ?
Bien évidemment, comme j'avais eu un certain nombre de réunions et que ce jeune était particulièrement motivé et me paraissait vraiment très sympathique, il a effectivement, quand il a su que rien ne marchait... Je n'ai plus de contact, mais j'en ai eu quand même au bout de 10 jours par un copain, et j'ai su qu'il était parti. Il était parti dans la région de Marseille.
Oui, très vite, juste un mot sur la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans, le premier consul recevait et faisait facilement des certificats d'authenticité des documents. Et les 2 dernières fois où je suis allé à l'ambassade, il n'a pas dit, mais il a laissé entendre que les instructions étaient de rendre l'authentification plus difficile.
Ça me rappelle une anecdote. Il y a 10 ans, il y avait eu un jeune Ivoirien qui avait 18 ans, qui avait été bloqué à Orly, en zone d'attente, parce qu'il y avait une page qui avait été rajoutée dans son passeport et que la page avait été jugée fausse par la PAF. Le consulat, or c'était une page qui avait été faite par le consulat. Le consulat a d'abord dit que c'était vrai, que c'était une vraie page. Puis ensuite, comme il y avait un petit contentieux, on a dit si la police dit qu'il est faux, elle est fausse.
Oui, par rapport à ce qui se passe à Montpellier, c'est Montpellier, hein, l'Hérault. Je pense qu'on aurait tort de penser que c'est ça se passe là il y a quelque chose d'extrême, d'un peu plus abusé qu'ailleurs, etc. Je pense que en vérité, d'abord, ça s'est déjà passé ailleurs, ça s'est passé à Lyon, on le sait bien, ça se passe dans d'autres villes encore, même maintenant, parce que je crois bien qu'au Havre ou dans d'autres villes, il y a des jeunes qui vont en prison, ou en tout cas en rétention, mais en prison aussi. Je suis pas sûre que ça se passe qu'à Montpellier en ce moment. Du temps où ça se passait à Lyon, ça se passait pas qu'à Lyon. Sauf que ça se disait pas. Et que, en réalité, les militants qui étaient dans les autres villes ne faisaient pas forcément savoir haut et fort, mais ça se passait ailleurs. Et aujourd'hui, même si à Lyon, les jeunes ne vont plus en prison, ils sont quand même traduits au tribunal correctionnel. Ils sont traduits au tribunal correctionnel pour escroquerie et pour détention de faux documents, après avoir reçu une OQTF sans délai. Donc, ils reçoivent une OQTF sans délai. Dans 2 jours, ils doivent être partis. Et ils reçoivent en même temps une convocation au tribunal correctionnel pour dans 5 ou 6 mois, au mois de septembre actuellement. Hein ? Mais c'est donc bien une politique complètement, bien organisée, bien décidée, quelque part et en haut lieu, qui consiste à pénaliser et à poursuivre pénalement les mineurs isolés, soupçonnés, décrétés majeurs, quoi. Et pour le moment, alors, on n'a pas le recul suffisant, mais pour le moment, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent dans la plupart des cas, après que la cour d'appel chez nous ait adopté une jurisprudence quand même assez constante, mais c'est pas tout le temps comme ça, ça va pas tout le temps comme ça, et on s'attend au pire, et on est sans arrêt en train d'aller d'un tribunal à un autre, du tribunal administratif au correctionnel, à la cour d'appel, chez le juge des enfants et à la cour d'appel des mineurs. Il faut bien dire quand même qu'on n'obtient rien de significatif au niveau des résultats des tribunaux. Donc j'ai l'impression qu'on est nombreux en fait dans cette salle, et quand j'entends le VAR, on est nombreux à partager cette galère mais qui est inouïe et qui prend la tête et l'énergie des militants mais aussi des avocats. Parce que réellement, nous, nos avocats, bah, ils souffrent, hein, ils souffrent, même s'ils sont bien organisés, nombreux, etc. Et cette réalité, par quel bout on va la combattre ? Par quel bout, comment on s'y prend ? Alors, l'histoire des ambassades, là, c'est bien un sujet. Parce que c'est bien vrai qu'eux, ils ont les moyens d'eux, ils auraient. Hein, et que quand on obtient un certificat d'authenticité de l'ambassade de Guinée, on est content, ça arrive. Mais c'est rare. La Côte d'Ivoire, elle se ferme. En ce moment, nous, on est du côté de l'ambassade du Mali. On a donné plusieurs rapports d'expertise au consulat du Mali à Lyon. Ça doit suivre à l'ambassade. On ne sait pas quel sera le résultat. Mais bon, c'est sûr que y a un problème de relation entre la France, faut le dire, hein, ancien pays colonialiste, toujours avec une politique impérialiste. Il y a quand même ce problème de la politique de la France à l'égard des pays anciennement dominés comme colonies et encore dominés, quoi. Donc, quelque part, il faut aussi dénoncer ça dans nos... et faire savoir ça.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de camarade de Lyon, hein, sur le fait que c'est un phénomène politique, hein, bien sûr. C'est totalement inadmissible que la France entretienne des rapports coloniaux comme ça, de domination avec ses anciennes colonies. Il faut savoir qu'au Maroc, par exemple, il y a un accord entre la France et le Maroc qui dit qu'on peut pas, la France ne peut pas contester un acte d'état civil marocain, sauf à en référer directement au ministère étrangère de trucs.
Donc du coup, moi ce que je voulais indiquer, j'interviens dans l'état des lieux des poursuites pénales des mineurs isolés, en attendant, si ce ne sont pas des délinquants, pour les Guinéens, ils sont considérés de façon généralisée comme des fraudeurs. Hein, vous l'avez très bien compris. Et tout à l'heure, je voulais aussi rebondir sur ça. Pauline indiquait que les jeunes n'ont pas forcément des documents d'état civil. Bah, quand ils en ont aussi, ça pose extrêmement problème dans tous les cas. En tout cas, pour les Guinéens, c'est aussi ce que je vais développer. Et quant au troc de papier, on a employé tout là cette expression. Là, la PAF, très concrètement, elle considère que toute la Guinée fait du troc de papier. Hein, voilà. C'est donc l'objet du recours. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a été informé d'une note d'actualité. Nous, pour nous, ce n'est pas une note d'actualité. Hein. C'est pas une circulaire. Ça ne peut pas être considéré comme une circulaire, mais ça serait des instructions impératives que les agents de la PAF doivent exécuter. Et qu'est-ce qu'elle dit cette note ? Elle indique fraude, enfin l'objet quand même de cette petite note d'actualité fort sympathique de la PAF, fraude documentaire organisée en Guinée sur les actes d'état civil. Donc ces actes ne sont pas du tout centralisés, numérisés, la délivrance d'extraits d'actes de naissance reste manuelle. Et du coup, qu'est-ce que préconise, bien évidemment, après, hein, je ne vais pas vous refaire tout le topo, hein, quand il y a une expertise documentaire qui est effectuée, c'est la PAF qui est saisie, et voilà, les agents ont à leur disposition ce type de matériel. Et qu'est-ce que c'est ce type de matériel ? C'est cette note qui indique, qui préconise, c'est là qu'ils nous piègent un peu, puisqu'ils indiquent qu'ils préconisent, nous on considère qu'en fait c'est complètement automatique, que l'avis concernant les documents administratifs, hein, les documents guinéens présenteraient un avis défavorable. Un avis défavorable doit donc être émis. À chaque fois, cet avis peut être formulé de la manière suivante. Au regard des informations sérieuses émanant du service de sécurité intérieure, de l'ambassade de France en République de Guinée-Conakry, faisant état d'une fraude généralisée au niveau de l'état civil de ce pays, tant au niveau des administrations que des tribunaux, il n'est pas possible de formuler un quelconque avis relatif à l'authenticité du document soumis à l'analyse. Un avis défavorable est donc émis. Voilà. En fait, Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ne sont même pas en train de regarder l'acte. Ils ne sont même pas en train d'indiquer si cet acte est vrai ou faux, s'il présente des erreurs ou non. D'ores et déjà, on a un acte d'état civil guinéen. On ne fait pas d'avis, on fait un avis défavorable. C'est comme ça que ça se présente pour nos jeunes, en fait, guinéens, parce que vraiment, oui, en effet, ça concerne aussi les titres de séjour, ça concerne les visas, mais sincèrement, quand une personne, elle présente un dossier, un guinéen majeur présente un dossier de régularisation, très, très peu de fois, son acte d'état civil est expertisé par la PAF. Non, cette note, très concrètement, elle concerne vraiment les mineurs guinéens. Ce que je voulais également vous indiquer, comment se présente du coup, donc ça c'est notre note, ça c'est la PAF. Alors là, qu'est-ce qu'il nous indique? Enfin, je vous indiquerai tout à l'heure, plutôt. On va faire plutôt par étapes. Donc voilà, alors on a un agent qui liste cette instruction, donc on considère que c'est une instruction. Voilà, bon, ben, j'ai fait faire mon petit copier-coller, hein. Avis défavorable est donc émis. Et c'est exactement ça comment se présente en fait une expertise documentaire. Hein. On n'a aucun élément caractéristique de contrefaçon ou de falsification n'a été détecté. Cependant, au regard, blablabla, du truc, du service de sécurité intérieure et aussi d'un petit article, hein, un article de presse, entre guillemets, hein, qui nous relate les fraudes ont été relatées dans la presse guinéenne sur un attrait démontrant celle-ci sur l'état civil en Guinée. Enfin, on est sur ce type de niveau. Hein. Donc, voilà, comment se conclut l'expertise documentaire? Un avis défavorable est donc émis. Donc, on était tombé sur ça. Moi, j'étais bénévole à l'ADJI. J'avais bien compris que même quand on a en plus un avis favorable au niveau de l'expertise documentaire, parfois, ben, les jeunes ne sont même pas protégés. Donc là, quand on est un Guinéen, en fait, on part déjà. Enfin, quand on est un jeune Guinéen, on a déjà un avis défavorable. Et du coup, le Justice est saisi de cette question. Donc notre positionnement, c'est en effet que c'est une instruction à caractère impératif. Ça veut dire que par cette note, les agents qui sont chargés de faire l'expertise de ce document, ils ont une instruction. Hein. L'instruction, c'est avis défavorable. C'est comme ça que nous, on l'a présenté. En tout cas, c'est comme ça que vous le savez tous, que ça se passe concrètement. Hein. Donc, voilà. Et on a également soulevé la violation, bien sûr, de l'article 45 du code civil. Pourquoi ? Parce que ces avis défavorables sont absolument systématiques. Du coup, les agents n'ont plus aucune, finalement, marge de manœuvre. Mais alors, du coup, là, ce qui c'est intéressant, on a fait un recours devant le Conseil d'État, puisqu'on considérait que c'était une circulaire, et du coup, un référé pour essayer de bloquer les effets jusqu'à ce que le juge se statue sur la question de fond. Et on s'est fait complètement bananer. Note d'actualité, pourquoi ? Parce qu'elle préconise cette note. Elle préconise. Hein, c'est des précautions, c'est à titre informatif hein, pour les agents. Ils ont une liberté, une marge de manœuvre importante. Et en plus, bon, c'est pas très urgent, en fait, hein, parce que le Justi a eu connaissance de cette note 2 mois après son édiction. Donc, il n'y a plus d'urgence. Voilà. Comment on s'est fait bananer en référé. Du coup, maintenant, on est sur le fond, on attend, que soit statué sur le fond, et on a reçu un mémoire en défense hein, du ministère de l'Intérieur, fort intéressant, plein de contradictions, et c'est surtout assez hypocrite, enfin assez, c'est pour tempérer, hein, plutôt hypocrite quand même. Hein. On a toujours pareil, hein, un ministre, enfin du coup des agents de la PAF qui auraient hein, cette marge de manœuvre dont je vous parlais tout à l'heure. Ils auraient, c'est juste une simple information, c'est pas une directive. Et en plus de cela, cette note ne fait pas grief. Ça veut dire qu'il n'y a pas de préjudice sur les personnes, sur les jeunes. Enfin, j'ai du mal à voir comment elle ne peut pas le faire. Mais bon, voilà, on est dans ce genre d'argumentaire au niveau de nos autorités. Et quand même, finir sur une pointe de plutôt positive, parce qu'il y a des très, très bonnes avocates, et enfin, les avocats, on fait un très, très bon travail. On a deux décisions qui sont récentes. Alors, c'est la Cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2018. Et on a une annulation, enfin, on a, oui, enfin, en tout cas, comment est rédigée cette décision qui va en faveur du jeune, puisqu'il a été finalement placé. Il est indiqué, il ne saurait par ailleurs être déduit de l'avis défavorable émis par la police au front, de la PAF sans un examen des actes au motif d'une fraude généralisée concernant les actes d'état civil guinéen, que les actes examinés sont faux ou irréguliers ou qu'ils ne le sont pas. Et du coup, elle conclut par ne saurait être mise en cause par des considérations d'ordre général, voire une note interne à l'administration incitant à émettre des avis systématiques défavorables sur tous les actes d'état civil en provenance de Guinée. Bon, voilà, on a quand même une cour d'appel qui a indiqué que cette note-là, on ne pouvait pas, se fonder sur cette note parce qu'elle était beaucoup trop générale et que, en plus, comme je vous l'ai indiqué, les actes présentés n'étaient pas faux ni contrefaits. On a cette première décision. Alors, du coup, je vous invite à vous saisir de cela pour... peut-être la transmettre aux confrères qui sont dans ce type de configuration. On en a une autre extrêmement bien également de la Cour d'appel de Besançon qui date du 14 novembre 2018 et qui indique, c'est exactement pareil, hein, elle conclut à ce que l'appréciation des documents d'état civil faite par le bureau des fraudes ne peut pas être négative. Et du coup, c'est les pièces d'état civil produites par le jeune Guinéen font foi de sa minorité. Pourquoi ? C'est toujours pareil, parce qu'ils n'ont jamais finalement été considérés comme faux. Voilà.
Vous êtes toujours à l'écoute de RESF, le réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, FPP 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming. Nous venons d'écouter de très larges extraits du débat état des lieux des poursuites pénales des mineurs isolés, enregistré à l'occasion de la rencontre nationale des collectifs Jugi, justice pour les jeunes isolés étrangers, qui s'était tenue le 23 mars dernier. Et puis maintenant, quelques notes de musique avec Myriam Makeba. Il est rail enregistré en Guinée avant de passer à notre agenda.
Baseru ya tante todo kito ya pe kanar liemayo onga omenide. Afrique birie colon Portuguese naer
toujours à l'écoute de l'émission RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou rfpp.net pour nous suivre en streaming.